Ok. La question de Jaïs.
Ah, je vous demandais, en fait, on a d'un côté, bon, on répète toute la journée qu'on doit convoiter la venue du Machia, qu'on doit prier pour que Machia vienne, donc pour la délivrance et la Géoula, mais d'un autre côté, on sait que quand Machia va venir, le Yetzirah, il ne sera plus là, donc on aura plus de libre arbitre. Et autour de nous, on a énormément de personnes qui n'ont pas fait de Tchouva, même nous, on n'est pas assuré d'avoir fait de Tchouva quand Machia sera venu. Donc, d'un côté, on nous demande et on doit prier pour la venue de Machia pour être libéré, pour plus souffrir, mais d'un autre côté, on sait que. Il y a certaines personnes, et on ne sait même pas si nous, et ben on n'est pas dans ce groupe de personnes qui vont payer. Donc on a un choix à faire. Est-ce qu'on doit vouloir faire tchouva maintenant et réparer ses fautes avant la venue de Machia pour être blanc ou le plus blanc possible à la venue de Machia? Ou est-ce qu'au contraire, on doit continuer?
Bon, tu as dit beaucoup de choses. Une partie vraie, une partie fausse. Alors, d'abord, la question que tu poses, il y a plusieurs questions. On va traiter le premier sujet. Est-ce qu'il est préférable pour nous maintenant de prier que Machia revienne, oui ou non? Chafetz Chaim a écrit un bouquin qui s'appelle Tzipita le Yeshua. Tu convoiteras la Yeshua. En fait, la Gemara, elle dit que lorsqu'on arrive au Lamaba, on nous pose quelques questions. Il y a les cinq premières questions qu'on nous pose, elles sont marquées dans la Gemara. La troisième est, est-ce que tu as convoité la Yeshua sur la Géoula? Est-ce que tu as attendu, convoité, prié dans ce sens, tout fait pour que ma chair se dévoile? La femme me pose la question. En fait, nous, on n'a rien à gagner. Car comme tu dis très bien, tant qu'on est dans le monde où il y a le mal, et on a le choix entre le mal et le bien, alors on peut agir, on peut faire, on peut être. Dès que ma chair arrive, il y a un dévoilement énorme de vérité, de lumière. Il n'y a plus de Yetzirah, le mal n'existe plus. Quelque part, je ne peux pas faire autrement que de faire le bien. Il y aura encore un peu de libre arbitre, faire plus de bien ou moins de bien. D'accord? Mais ça ne sera rien par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, lorsqu'on doit développer des forces énormes contre le Yetzirah pour se battre. Alors, on exerce notre libre arbitre. On est, d'accord? EST, je suis en train d'être. J'acquiers maintenant mon être éternel. Alors, lorsque je fais un acte du côté de la vérité qui est éternelle, le désir de Dieu, je deviens un avec Dieu. Je deviens la main de Dieu, donc j'acquiers une réalité éternelle, ce qui n'est pas le cas lorsque je le fais malgré moi, parce que Dieu s'est dévoilé, maintenant je deviens un robot, d'accord? Comme la fleur n'a pas le choix de monter, d'accord, et de se faner, on n'a pas le choix de faire. C'est marqué à l'époque messianique, quelqu'un va aller cueillir une figue Shabbat, la figue lui dit « ne me cueille pas, c'est Shabbat ». Les petits enfants, ils croient que les figues auront des bouches et vont se mettre à parler. Les adultes comprennent que la réalité va dire « c'est Shabbat ». On verra. Donc, où est maintenant le mérite ou le démérite de notre action? On n'a plus de choix. Donc, il est clair qu'au niveau personnel, on n'a rien, on n'a aucun avantage à demander Machir. Mais néanmoins, c'est la question qu'on nous pose. C'est pas agréable d'arriver au Lamaba. Et première question qu'on nous demande, Natata Be'emuna, est-ce que tu étais honnête dans ton business avec les gens? Tu es un type droit? Ou bien tu étais un magouilleur. Deuxième, est-ce que tu as fixé des moments pour études de Torah? Troisième, est-ce que tu as attendu? Et vraiment, attendu, c'est pas comme ça. Attendu la venue du Mashiach. Non, non, non. Un peu. Si peu. C'est pas agréable. Donc le Rav Yisraël a écrit un bouquin entier pour nous encourager dans ce sens. Et il a mis ça énorme, énorme. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Et alors il pose la question et il répond. On ne demande pas Mashiach pour nous. On demande Mashiach parce que faisant partie, étant le peuple d'Israël, il véhicule la divinité sur terre. C'est lui qui amène le message de Dieu sur terre. Nous devons vouloir que Dieu se dévoile dans le monde parce qu'il est inconcevable, inadmissible, que Dieu est le roi du monde, qui peut amener un bien énorme, que la vérité devrait être éclatante, et c'est exactement le contraire qui se passe. Le mal est le roi du monde, avec toutes les conséquences négatives que ça amène, la souffrance qu'il y a dans le monde, et Dieu peut faire que ça disparaisse, simplement quoi? Dieu veut qu'on ait libre arbitre, que par nous-mêmes on l'amène. C'est, c'est, par, C'est par notre mérite qu'on a fait ça. Donc nous, on doit vouloir. On doit vouloir que par notre mérite. Dieu peut faire maintenant, tac, et voilà. Dieu a voulu créer maintenant un monde qui s'appelle Olam, donc duquel il naît l'âme, il est caché, pour laisser place au mal, pour qu'on ait libre arbitre. Dieu l'a voulu, oui. Mais Dieu veut qu'on vainque la bataille et que la lumière vainque l'obscurité. Et un beau jour, il faut que ça se dévoile. C'est pas normal. Il est impossible que, pour l'éternité, on vive dans un monde où il n'y a que le mal qui est roi. Sans cela, il y a un grand Chilou Hashem, il y a une profanation du nom de Dieu. Or, nous voulons que le nom de Dieu se sanctifie. C'est le Kaddish. Et de Gadal, que soit grandi, et de Gadal sanctifié, Shmei Rabba, son grand nom. Dans tous les mondes, dans le monde ici, dans tous les mondes. Cette phrase, elle est basée sur la fin de Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est Yechezkel 38. Là-bas, on raconte toute la guerre, comment aura lieu. Et à la fin, donc, le monde entier va voir. C'est marqué, je me grandirai, je me sanctifierai aux yeux des peuples nombreux. Et tous reconnaîtront que je suis l'éternel. On veut ça. On veut ça. En tant qu'amoureux. Quelqu'un qui est amoureux de sa femme qui est partie maintenant, ou ses parents sont partis à l'étranger. Il attend un amoureux, il attend que ses parents reviennent. Maintenant, c'est quand qu'il peut exprimer le mieux son amour? Quand ses parents sont là, ils sont là, il est content, mais ok. Quand ses parents ne sont pas là, quand il y a le noir, quand il y a l'obscurité, le fait que tu attends la lumière, tu dis, vous me manquez terriblement en fonction, quand quelqu'un, sa femme part en voyage, tant qu'elle est là, bon, ça va, on s'aime bien, mais quand elle n'est pas là, il quand même... Elle me manque. L'obscurité met en relief la lumière. Nous, on est un monde d'obscurité pour que nous-mêmes puissions accéder à cette lumière, la mettre en relief. Mais ok, combien de temps on va rester maintenant? Ok, ça va. On a compris, on est amoureux. Reviens! J'ai pas compris les deux à la fois. Alors, à qui va? Non, alors, Manu.
C'est que là, on attend quelque chose qu'on ne connaît pas.
Ah, mon cher ami, c'est marqué, comme je le répète souvent, « Va'avta t'Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. » C'est pas une blague, cette phrase. Aimer Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, il attend que Dieu se dévoile. Maintenant, quelqu'un n'arrive pas à aimer Dieu. Ok, peuple d'Israël, tu aimes. Est-ce qu'il est normal que le peuple d'Israël soit maintenant la cible de toutes les nations? L'OLU, l'Organisation des Loups Unis, se met ensemble, n'empêche de vivre rien, on n'a pas droit à la vie, c'est normal. On a en face de nous des assassins terribles, je vais encore être mis sur internet, d'accord, des assassins terribles, et nous on se bat pour notre survie, et on nous traite de nous de nazis. Ça, c'est le monde à l'envers, c'est le monde du mensonge. Basta, ça suffit. Ça te va ça, tu peux comprendre ça? Oh, prie pour ça. Prier pour Amisraël, c'est déjà très grand. Mais on veut plus, on veut prier pour que le nom de Dieu se dévoile. Tu dis?
C'est pas un peu un kiddouche, justement, un kiddouche Hachem, que... On l'aime, comme vous dites, on a le choix, on a libre arbitre entre...
C'est un kiddush Hashem pour toi, personnel, oui.
Non, pas pour moi, même pour lui. C'est-à-dire que j'ai plus de mérite à aimer Hashem.
Dieu voit que maintenant, toi, ici, voilà, on est obscurité. Tac,
il... peuple, en général.
Ouais, petite étincelle ici qui est claire, une autre qui est claire. Mais maintenant, on vit dans un monde de mensonges. C'est anormal que Dieu, qui est le maître du monde, la grosse majorité de l'humanité est contre lui. Il fait comme ça.
Il n'a pas besoin de ça.
C'est vrai qu'il s'en fiche.
Donc, il préfère
Mais nous, qui
préfère voir l'amour de quelqu'un qui lutte pour lui, même une petite fourmi comparée à l'immensité, plutôt que tout le monde le sache, mais au fond, il a forcément...
T'entends pas ce que je dis. Je dis ici, on vit actuellement dans une situation qui est un mensonge. Est-ce qu'il est...
Non.
Oui, il a voulu. Mais est-ce qu'il est normal qu'il y ait un mensonge? C'est une chose qui est normale. Le mensonge, est-ce qu'il y a une réalité qui doit rester?
Jusqu'à ce qu'on l'enlève complètement, mais de nous-mêmes. On ne pourrait pas faire ça.
Très bien. Ça sera par nous-mêmes, c'est clair.
Oui, mais là, il va beaucoup nous aider à la fin.
Il nous aide. Il a demandé une chose. Il y a un midrash qui dit qu'il y avait un roi, il y avait une route, d'accord? Il y avait un grand rocher qui obstruait la route. Il a dit, allez tous maintenant, avec vos petits couteaux, comme ça, commencez avec vos petits marteaux, à casser la grosse pierre. On a été, là, il a vu qu'il a fait un bon travail. Ok, moi j'ai un tracteur, zip, il a enlevé. Ok, le boulot qu'on doit faire, on le fera. T'en fais pas. On va rien enlever à personne. Maintenant, donc déjà, nous devons prier, et il y a une mitzvah énorme, et on doit le faire. C'est important. Alors, le bel Rabbi Sion, un jour, je lui ai demandé, Mashiach, il m'a dit comme ça, quand un invité doit venir à la maison, d'accord, on se prépare à ce qu'il arrive, on attend qu'il vienne. La majorité des êtres humains, des juifs, n'ont rien à faire. Mashiach, ok, bon, ça va. Je dois finir mon mois, d'accord. Mashiach. Qu'on l'attende. Qu'on l'attende. Donc il y a une mitzvah d'attendre. Et c'est certain que c'est partie du tikkun, des choses qu'il faut faire pour qu'il vienne. un invité, on doit l'attendre, première chose. Secondo, qu'est-ce qui se passe maintenant si on n'est pas prêt? Alors quelqu'un me dit, tu me dis des factures, il faut payer. On a suffisamment payé. Il est clair que la Shoah, une des raisons nombreuses qu'on provoque la Shoah, c'est certainement, c'est marqué Hevel Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie. C'est certain que ça va, et on a suffisamment payé. Rien que la Shoah, c'est suffisamment. On a terminé. Encore, on paye, on souffre. Dans toutes les familles, il y a des malheurs, il y a des maladies, il y a des gens qui quittent la Torah, il y a des divorces, et machin, ça va. Le monde aujourd'hui, il a une tête terrible. C'est pas un Chilou Hachem, ça. Bien sûr. Donc on veut que ça cesse. Non seulement pour notre souffrance et qu'on puisse finir, aussi finir de payer notre mois, d'accord. Est-ce que c'est normal maintenant que le fleuron de l'humanité, les Bnei Torah, soit au niveau social les plus bas qu'il puisse y avoir? Combien reçoit un Kollelman de paye? 500, 600 dollars? En euros, 400 dollars, 400 euros? Mais un Kollelman, le matin, il sort. Il y a une limousine Mercedes qui fait 20 mètres de long qui l'attend, avec trois motards devant, trois motards derrière. Il va au Kollel. C'est pour lui que le monde était créé. C'est comme ça que ça va se passer normalement. Laissez passer, il va au Kollel. Ça, c'est la truc. C'est tout le contraire, d'accord? Qui va en limousine? Les plus grands magouilleurs du monde, les plus grands tordus, corrompus, c'est eux. C'est normal. On est amoureux de la vérité. Appelle pas ça Dieu, appelle pas ça Israël. Vérité, on veut que la vérité se dévoile. On doit être un type qui est amoureux, qui est vrai, il veut la vérité. Il ne peut pas supporter le mensonge. Alors il comprend que Dieu a voulu. Ok, c'est bien. Alors on attend que tu arrêtes. On attend que la vérité se dévoile. Et cette attente, c'est elle-même un grand tikkun. Si quand quelqu'un, ses parents partent, sa femme part et dit « tout va très bien », tout va très bien, on s'arrange très bien sans toi. Bon, reviens un jour, hein. Mais prends ton temps. C'est l'envoyer une gifle sur la tête. Je veux dire, on n'a rien à faire de toi. Dégage. Non. On doit exprimer notre manque. Et on doit le faire. Troisième question. C'est pas pour rien que c'est une troisième question. Alors, payer, on a déjà payé. Maintenant, la question, qui est la question. Ok. Pas tout le monde est prêt à voir Mashiach. C'est un dévoilement de lumière, et le type qui n'a rien fait toute sa vie, qu'est-ce qui se passe, ma chère? C'est quoi? Ma chère, c'est comme le jour de la mort. C'est exactement ce qui se passe en privé, ce qui se passe ça aura lieu en général. En privé, qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le jour de la mort, le corps va dans la tombe décomposée. Ta neshama, elle monte. T'as plus d'yetzera, t'as plus de corps, t'as plus d'envie de ce que t'avais. D'accord? Tu vois la vérité. Ouais. Attends. Donc, on enlève l'yetzera, on voit la vérité, et on regarde, et on se rend compte où on en est. On se rend compte à quel point on était à côté de la plaque. Tout le monde. Tout le monde est à côté de la plaque. C'est certain, plus ou moins. D'accord? Le jour où Mashiach arrive, c'est ce qui se passe dans le monde. Le mal est éradiqué. Flip, on dégage. Il n'y a plus de serrara. Tout la vérité. Et tu te rends compte que tu étais à côté de la plaque. Plus ou moins durant toute ta vie. D'accord? Ceux qui sont suffisamment au niveau pour voir cette lumière, ils passent. Ceux qui ne sont pas au niveau, ils ne passent pas. Ils ne passent pas. C'est marqué. 4/5 du peuple juif est resté en Égypte à la sortie d'Égypte, et c'est marqué qu'à la fin des temps, il y aura à peu près la même chose qui va se passer. Alors, à mon avis aussi, personnellement j'espère, d'accord, d'abord, les grands Torah ont dit, le Rav Ben Sion déjà il y a 20 ans, il avait dit un discours à Yad Eliyahu, c'est le plus grand sage d'Israël à l'époque, il y avait une grande assemblée, il a dit, c'est clair que tout est là pour que Mashiach revienne. Pourquoi Mashiach ne vient pas? Dieu attend qu'il y ait encore quelques balais de Tchouva qui reviennent. Nous, la mission importante aujourd'hui de faire tchouva et de faire tchouva. Parce qu'il y a encore, et j'ai entendu aussi quelqu'un d'autre qui a dit, il y a des centaines de milliers d'ancêtres dans le ciel qui prient, qui crient à Dieu, qui disent, non, attends encore, j'ai un derrière petit-fils là-bas, il est encore avec la Goya, là, il faut qu'il se réveille. Il n'a pas encore fait tchouva, il ne fait pas Shabbat. Dieu nous en préserve, pas faire Shabbat, c'est très grave. Attends Dieu, et Dieu attend. Mais jusqu'à quand il va attendre? Il y a une deadline. Alors j'ai posé la question il y a quelques mois au Rav Uzan, le chamash de Rabbi David Abouhatsera. Je lui ai dit, moi aussi dans ma famille j'ai des gens qui sont out, d'accord? On leur parle. Je comprends rien. Alors il a dit, juste avant, il y aura encore un petit quelque chose comme ça pour que le maximum puisse rentrer. Hein? J'imagine que vu qu'on a payé énormément, vu que Israël souffre, vu que Israël est extrêmement innocent, parce qu'après tout, tu comprends, prends un jeune homme de 16 ans, d'accord, avec la poussée de toutes les hormones qu'il y a. Maintenant, tu le mets à Paris. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, t'as mieux qu'en vrai. D'accord? T'as mieux qu'en vrai. Un bouton. Pourquoi pas? Faut être très, très, très solide pour le faire. Il a 16 ans, il n'a rien, le gosse. Donc, le mal, il se déchaîne dans le monde partout. La Gemara a dit, prends un gosse, habille-le, parfume-le, donne-lui une bourse d'écu, mets-le en face d'une maison de passe. Maïsé Aben Veloyerta, que fera le gosse pour pas pécher? C'est un bel Adam, c'est un type normal, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est la situation de chacun. Un type ne fait pas des péchés aujourd'hui dans le monde fraï, d'accord? Même dans le monde froum, d'accord? C'est un géant, un géant de géant. Je vais raconter l'histoire parce qu'elle est belle. Rabbi Chaim Vital, toute la mystique étudiée, toute la Kabbalah étudiée aujourd'hui, ça s'appelle ça Kitvei Ari, les écrits du Hari. Rabbeinu Ari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, n'a rien écrit. Il a enseigné son élève, Rabbi Chaim Vital, un peu moins de 2 ans. Rabbi Chaim Vital, pendant près de 50 ans, il a écrit ce que lui a enseigné oralement son rabbe, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Hari. Tout le monde Kitvei Ari. Ça, c'est toute la Kabbalah qui étudie tout le reste, on met plus ou moins de côté, les vrais Mekoubalim, mais ils étudient que ça. Ok? C'est un monsieur d'une envergure énorme. Énorme, il aurait dû être Mashiach. Un jour, il écrit, son rabbe, Rabbeinu Ari, lui a dit, sache, Chaim, tu es grand comme Rabbi Akiva. Chaim répond, quoi d'arabe? Moi, je sais qui je suis, mes nombreux péchés. Je sais que c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est marqué lorsque Dieu est monté au Mont Sinaï. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au haut du Mont Sinaï, il avait toutes les générations à venir. Il a vu Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, je ne comprends pas. Dieu, tu as un homme comme Rabbi Akiva transformer la Torah par moi. Moi, Moshe, mais Rabbi Akiva mérite beaucoup plus que moi. Dieu dit, t'as raison. Mais comme ça, j'ai décidé que ce serait toi et pas lui. Donc Rabbi Akiva est plus haut que Moshe Rabbeinu. Alors moi, Chaim, je sais qui je suis. Rabbeinu Ari lui dit, t'as raison. Mais sache, Rabbi Akiva, à son époque, il y avait une lumière énorme dans le monde. C'est un projecteur. 1000 watts. 10 000 watts. Mais prends un projecteur 10 000 watts en plein jour, tu projettes, et ben bon, ça fait de la lumière, ok, mais bon. Comme dit la Gemara, Shraga Beti Harama Hani, une bougie en plein midi, à quoi elle sert? Un type avec une bougie comme ça en plein jour, hein, on prend un fou. Alors lui, c'est un projecteur, ok. Il dit, mais aujourd'hui, les forces du mal sont beaucoup, beaucoup épaissies, il fait noir. Et la petite lumière que tu fais, toi, Rabbi Chaim, toi, t'es une petite bougie, t'es pas un projecteur, t'es une petite bougie, toi, t'es 40 watts. T'es 10 000 watts, Rabbi, t'es 40 watts. Mais les 40 watts que tu fais dans l'obscurité, tellement elle est noire, elle fait un effet comme les 10 000 watts de Rabbi Akiva dans le jour. Et messieurs, maintenant faisons le compte de nous. Ça, Rabbi Noari, il dit à l'époque, à Rabbi Chaim Vital, il y a 500 ans, à Tzfat, que quand tu vas aujourd'hui à Tzfat, tu sens encore la sainteté de l'endroit. À l'époque, il y a 500 ans, si nous étions là-bas, on tombait tous dans les pommes. De la sainteté, la lumière qu'il y avait là-bas. Qui avait? Il y avait peut-être 2000 personnes à Tzfat, parmi eux. Rabbeinu Ari, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Eliyahu de Vidash, le plus grand bouquin de Moussar qu'il y a, c'est Rachid Chochma à l'époque, c'est un bouquin, la barre elle est haute, il était là-bas. Le Radbaz, Rabbi Levi Menzimra, un des grands poskim de l'époque, Marie Berav, le rave de Rabbi Yosef Karo, le ramak Rabbi Moshe Cordovero, le rave de Rabbi Noari, le Al-Sheikh Akadosh, qui avait un commentaire sur la Torah, Al-Sheikh, c'est un des seuls trois ramas qu'on appelle le Kadosh. Il y a Rabbi Noah Kadosh, le Shla Kadosh et Al-Sheikh Akadosh. D'accord, trois hommes qui étaient Kadosh, qu'on appelait Kadosh. Et Rahamé Kadosh aussi. Bon, quatre. Hein? Non, Rachid Kadosh, c'est une nouvelle invention. D'accord? C'était une Kdusha, mais inimaginable. Rabbi Noari dit, on est dans un noir de noir. Alors que dire aujourd'hui un jeune garçon à Paris? Il est où? C'est pas noir. C'est que l'obscurité d'Égypte, c'était à côté, c'était la lumière du soleil. C'est inimaginable dans quelle obscurité on est. Et malgré tout, tu as des juifs qui disent non. Oui, etc. Et t'as une lumière énorme. Énorme. Donc mon cher ami, Dieu, il voit tout ça. Tous ces balais de choix qui viennent maintenant, c'est grâce à quoi, tu crois? Il y a du mérite. Il y a le mérite des ancêtres, il y a ceux qui sont... Hein ? Sroutavot aussi, mais nous mérite aussi. Il y a Sroutavot aussi, mais il y a aussi le mérite de la souffrance du peuple d'Israël, la Shoah. Et pourquoi lui et pas un autre ? Lui aussi, on a aussi un petit choix. Et lorsque quelqu'un fait tchouva, il éclaire sur un autre. Et comme ça se ramène, aujourd'hui, avec peu, tu peux gagner beaucoup. Le peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. C'est vrai. Donc, compte tenu qu'il y a eu beaucoup de souffrance, qu'il y a beaucoup de mérite à Israël, beaucoup de circonstances atténuantes, parce que c'est le noir du noir du noir du noir, l'Israël est très très dur, d'accord ? Compte tenu qu'on sort d'une Shoah physique, qu'est-ce que tu demandes du peuple d'Israël après ? On n'en peut plus. D'une Shoah spirituelle, avant et pendant et après la Shoah, il y a une bonne partie du peuple juif qui s'est battu, mais battu de tous les moyens possibles, même avec des assassinats, pour qu'il n'y ait pas de Torah dans le peuple d'Israël. Qu'il n'y ait pas de Torah. On voit bien, des générations entières ont été liquidées. Qu'il n'y ait pas de Torah. Et malgré tout, il y en a encore. C'est un miracle. J'étais voir une fois le Rav Sternbuch. C'est le grand rabbin du Badatz, le président du Badatz, l'Aïda Haradit. Et je lui parlais d'une question dans une famille. Quelqu'un, voilà, il fréquente une Goya. Il dit, oh, il y a un casque, on peut l'inviter à Yom Tov, on peut l'inviter à Yom Tov, le CDR. Il ne répond pas. Il dit, Chazal n'aurait pas cru une chose pareille. Chazal ne croyait pas que la galoute aurait duré tellement de temps. Je pose une question, il me répond à côté. Lui a réagi, un juif avec une Goya, d'accord ? Un juif, il vit avec une Goya. Réaction du Rav, il dit, qui l'eût cru ? De Chazal, il y a 2000 ans, les Tanaïm, temps de la Mishnah, quoi ? On serait en exil 2000 ans ! Pas tenu. Mais c'est un miracle de miracle. Alors Dieu y voit tout ça. Encore. On est une pastille parmi des milliards qui veulent notre mort. Et dans Am Israël aussi, peu nous aime, le monde religieux. Et on est encore là. Alors, Dieu voit tout ça. Et la souffrance, combien... Les gens qui vont étudier la Torah, avec quoi ? Ils disent non, ils vivent dans des conditions les plus précaires, par amour de la Torah. Et combien, ceux qui ont l'argent, comment ils aident ? Tout ça, c'est des mérites énormes, énormes. Donc, le Drak Hashem, Mashiach viendra, très bientôt, sans... aucun problème. Et Bezrat Hashem, ce que je pense, moi, j'espère, c'est qu'il y aura des miracles tellement extraordinaires. Regarde, aujourd'hui, rien que les dernières guerres, on regarde, c'est des miracles fantastiques. Comme je le dis très souvent, il n'y a pas une guerre en Israël ici où il n'y a pas des témoignages d'anges. D'anges qui sont venus se battre pour Am Israël. La dernière guerre, je vous racontais le coup du commando, n'est-ce pas ? Hein ?
Non.
Un type qui est dans une des plus grandes... J'ai un ami, son fils se trouve à l'armée. Et avant la guerre de Gaza, il m'appelle. Il dit, bracha pour mon fils. Il est où ? Il est parachutiste. Bon, après la guerre, il me rappelle de nouveau. Je commence à entendre très bien. Il me dit, il raconte des miracles extraordinaires. Et raconte-moi un peu. Bon, il me raconte un petit peu. Et c'est fantastique, je veux que ton fils vienne ici, parler devant la caméra, raconter tout. Ok, le fils a demandé à ses boss, il dit, rien. Même pas avec flou, même pas avec bois, merde. Tu racontes rien. Bon, il s'avère, je ne savais pas, que le fils se trouve en fait dans l'unité, je n'ai pas le droit de le dire ici, l'unité la plus fabuleuse, la plus prestigieuse de celle que moi dans ma vie quand j'étais encore jeune, pour moi c'est un type, voir un type qui était là-bas, c'est NTB, c'est tous les trucs les plus fous, d'accord, c'est eux qui font. C'est des gens qui sont plus à l'étranger qu'en terre d'Israël. Le gosse, moi j'ai connu quand il avait 12 ans, depuis je ne l'ai plus vu. Je pars au téléphone, il me raconte un peu tout ça, il dit je le mettrai par écrit, il me met tout par écrit, et pour finir c'est le père qui a fait le cours ici, même sans être, on me filmait moi, le père était à côté, c'est lui qui racontait. Et il raconte qu'ils ont eu une mission d'attraper trois grands chefs du Hamas, ils arrivent près de la maison, ils travaillent par patrouille de quatre. Ils repèrent la maison, le gosse il a dit texto, il a dit ces gens-là, ces chefs du Hamas, ils tuent des gens comme ils mangent des olives. Des tueurs. On a vu d'ailleurs, il y a une guerre entre le Fatah et le Hamas, mais ils ont fusillé. Chacun est 50 à 100. Il n'y a plus de corps, ils tirent encore. Les autres, ils ont brûlé à l'essence. Ça va, restons calmes. Des tueurs terribles. Bon, ils ne rentrent pas par la porte parce que la porte, elle est piégée. Ils mettent une petite bombe sur le côté de le mur. Boum, ça claque le mur. Là, ça fait un trou dans le mur. La fumée se disperse. Hop, ils rentrent les quatre dans le... Il y voit les trois, hurlant, pleurant. les armes par terre. Sauf au respect, ils ont fait leurs besoins petits et grands sur eux, et ils hurlent. Ils attrapent, ils les attachent. Ils continuent à hurler, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit Tmania, Tmania. Tmania, c'est 8. Ils répondent, non, on est Arba, Arba. Tmania, Tmania. On est Arba, Arba. Ils baragouinent en arabe. Bon, ils amènent, ils vont dehors voir s'il n'y a pas d'autres soldats ici israéliens dans le coin. Ils voient, ils sont que les 4, il n'y a personne d'autre. Ils sont pas... C'est quoi ces 8 dont ils parlent? Ils amènent un soldat druze. Donc un soldat de chez nous qui parle arabe couramment, il traduit. Vous êtes rentrés 8 formes blanches avec des ailes, boucliers et javelots. On était terrorisés. Ça, c'est cette guerre. La guerre du Golfe, il y a des témoignages comme ça. La guerre de Kippour, il y a des témoignages comme ça. La guerre des Cisjordanie, il y a des témoignages. Chaque guerre a des témoignages. On n'a pas eu ça en 2000 ans à l'étranger, jamais. Ni la Shoah, ni les Cosaques, ni rien. Il y a eu des miracles, on a jamais vu des anges. Ici, c'est Eretz Israël, le route de Eretz Israël. Alors, quelle route? Quelle route? Quelle route? Quelques juifs qui étudient la Torah, d'autres qui souffrent pour rester en terre d'Israël, des gens qui aident dans le monde, les prières, bon, et bien tu vois que ça a marché. Et notre niveau n'est pas extraordinaire, mais Dieu voit, il n'y a jamais rien sans, il n'y a pas gratuit. Si Dieu a fait des miracles pareils, c'est qu'il y a un mérite. Pour l'époque messianique, mais qu'est-ce que ça va être? C'est marqué, Gam et Aam Hazed Dan Anochi. Avraham Avinu, il reçoit la promesse que sa descendance sera 400 ans en esclavage. Dans un pays étranger. Mais ce peuple aussi, dans lequel il sera en esclavage, Dan Anochi, je le jugerai. Il sera jugé. Dan. Chazal disent comme ça. Ce qu'ils ont ramassé les Égyptiens, c'était deux mots. C'est deux lettres. Dalet Nun, Dan. D'accord? Ce qui est marqué à propos de la fin des temps, tu as des chapitres, et des chapitres, et des chapitres dans les prophètes. Ça va être extraordinaire. Bezrat Hashem. D'accord, on va voir un dévoilement de Dieu extraordinaire, que tous nos frères qui sont loin, ils verront ça. Les anges se battent, ils vont voir eux, ils vont voir eux-mêmes, ils feront tout va. Bezrat Hashem. J'espère tout mon cœur. Maintenant, peut-être que non, peut-être que ça va être encore Hasse Shalom, une autre Shoah, et ils vont venir sur les trucs, ils vont égorger un peu tout le monde, et à la fin, hein, ceux qui resteront, bah, ils verront. J'espère et j'imagine, Bezrat Hashem, que la première sera la vraie solution. En tout cas, des gens m'ont dit, alors si c'est comme ça, pas besoin de faire tchouva. On va continuer, puis quand on va charmer, on fait tchouva en dernière seconde. Non. D'abord, il n'y a aucune assurance que vraiment tu seras sauvé. Deuxièmement, le peuple d'Israël, il souffre en attendant. Troisièmement, c'est un accouchement. Et quand il y a des hormones, on va dire, qui empêchent le bébé de sortir, ça fait très très mal. D'après le mérite de Am Israël, ainsi sera la Géoula. Maintenant, s'il y a une grande tchouva au dernier moment, ben, il y aura une grande Géoula très belle. Sinon, elle sera dans la souffrance. Donc, nous, messieurs les internautes, mesdames internautes, faites tchouva, faites faire tchouva, tout azimut, vite, il y a très très peu de temps. Comment je sais? Je ne sais pas.
Comment on fait ça, tchouva? Papa et maman.
D'abord, aujourd'hui, c'est facile. Papa et maman, c'est le plus dur. C'est marqué en navibéo, il n'y a pas de prophète dans sa ville. D'accord? Quelqu'un qui est intérieur, il ne peut pas. Il dit, oh, et Molo, comment tu nous parles? Ils ont raison. Quelqu'un de l'intérieur, il ne peut pas. L'extérieur, il peut. Alors, on voit quelqu'un d'autre. Oui.
Est-ce qu'on va être jugé pour pas avoir même essayé de faire tchouva à quelqu'un? Un meilleur copain, il est à côté de moi, je le vois, il faute, et au contraire, je lui dis, oh, alors, comment c'était, machin, bon, tu sais ce que je fais, c'est pas très bien, machin.
Et donne-moi une tomate tout de suite, qu'est-ce que tu peux lui parler, et t'as rien fait.
Quelqu'un, on essaye, il est têtu,
ah, ok, t'as essayé.
Mais bon, un essai qui...
T'as essayé, ok, ça a l'air. Regarde, il y a un clal. Il y a une loi générale qu'il faut savoir. On ne doit pas faire, on doit agir. Faire, ça veut dire, c'est moi je suis responsable que tu me dises ça, tchouva. Non, moi je dois agir dans ce sens. Ça marche pas.
Est-ce qu'on a fait assez?
On doit faire ce qu'on peut. Alors personne ne vous dit maintenant de quitter la yeshiva, d'aller, mais quand tu as l'occasion, tu es avec quelqu'un, comment on fait? Intelligemment, c'est d'abord du Kiddush Hashem, avoir l'air épanoui. Il faut attendre que lui te pose la question. Alors comment c'est? Là, tu commences à parler, etc. C'est la vérité, machin, tout ça, ouais. Le sens. C'est bon? Alors
Est-ce que, mis à part si on rend la considération tous les tikkunim, on peut pas dire, parce que lui c'est peut-être son tikkun, telle chose son tikkun, donc peut-être il sera sauvé alors qu'on aurait pensé que non. Est-ce qu'il y a des constantes qui reviennent qui vont dire un tel, il sera sauvé, un tel, il sera sauvé?
On ne peut pas savoir.
Pour quelqu'un qui fait Shabbat ou qui fait...
Ce qui est très clair, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Parce que tout dépend de l'âme. Plus quelqu'un a une grande âme, il a une grande sensibilité à Dieu, plus on va le juger sévèrement. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est juif et il a été éduqué très loin, qu'est-ce qu'on peut lui en vouloir, d'accord? Ce qui est certain, c'est qu'on sera extrêmement surpris. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges aussi dans le monde religieux. Et des fois, des gens qui ont l'air des gens très très bien, ce sont des tordus de première. Et le petit qui a l'air de rien du tout, c'est un type épatant. Ça, c'est clair. C'est clair. L'habit ne fait pas le moine. D'accord? Il faut savoir. L'habit ne fait pas le moine. Il faut savoir. Il y a un argument qui revient sans cesse. Pourquoi des religieux, ils font comme ci ou comme ça? Réponse. Un religieux, c'est quelqu'un qui essaye, dans sa mesure, de faire avec ses réussites et ses échecs. D'accord? Parce qu'il habille en religieux, qu'on doit imputer ça à la Torah. Dieu a dit, maintenant, voici ce que je vous demande de faire. Et on doit écouter Dieu. Donc, tu as vu, un religieux qui est le tordu, tu vas dire, moi, je préfère rester comme je suis plutôt qu'un tordu comme ça. Mais lui, c'est pas l'exemple. Il n'est pas l'exemple. L'exemple, c'est ce que Dieu a dit.
Non, puis même, il est tordu, peut-être qu'il a dit, etc. Que toi, t'as pas.
Voilà, exactement. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est l'argument de dire, voilà, j'ai eu un type qui. Et c'est un argument que les médias utilisent beaucoup, de monter des religieux qui sont tordus. D'abord, c'est leur. Comme tu dis, ils sont extrêmement friands de cela. Il faut savoir qu'il y a des religieux tordus. Tu as des religieux qui sont avides de cavotes, tu as des religieux qui vont avec des filles. Mais, et je dois le dire, c'est clair. Et là, je peux le jurer, je ne jure pas, d'accord, mais c'est clair que la proportion de tzadikim, de gens qui sont presque comme des anges, d'accord, d'une humilité vraie, d'un amour de la vérité et de l'autre profond, d'une sensibilité, d'une délicatesse avec l'autre, d'une connaissance de Torah, d'un investissement, la majorité, le pourcentage le plus grand qu'il y a au monde se trouve certainement dans le monde orthodoxe juif. Ça, sans aucun doute. Il y a ici, à l'Eshiva, il y avait un converti, d'accord, qui est allé vérifier. Lui vient d'un pays musulman. Il a vérifié là-bas les grands. Après, il a vérifié chez les chrétiens, il a vérifié partout. Il a été vérifier les grands d'Israël. Et là, il a vu, ok, c'est pas le kavod, c'est pas ces gens vrais, des gens amétis. Il a vu ça. Mais ils sont convertis. Il a vu, et nulle part d'autre, on peut trouver une chose pareille. C'est un grand plaidoyer pour Am Israël. Dernière question.
Il a dit qu'il y a une petite lueur dans
l'obscurité,
ça a un impact. Et si une personne, par exemple, elle était à l'Eshiva ou elle était étudiée et tout, mais à la base, c'était le l'Eshiva. Est-ce qu'il y a quand même du mérite, son mérite
c'est certain qu'il y a du mérite, mais nous ne savons pas quel mérite de chacun. C'est Dieu qui jugera en fonction de combien Dieu l'a aidé, combien le type il avait libre choix, combien il a été conditionné en fonction de son âme. Tous les paramètres appartiennent à Dieu. C'est clair que c'est toujours mieux de faire l'ishma que l'olishma. Mais l'ishma, de façon désintéressée, ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut pas rêver. D'accord. Chacun a un moteur aussi de... Un grand moteur dans la tchouva, c'est la femme. D'accord. Oh, je comprends bien ce que tu dis. C'est un très grand moteur. Baruch HaShem. Dieu utilise aussi des bons moteurs. Baruch Adonai, l'homme, mais...